والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شافه الإسلام le dernier point qu'on avait vu, c'est le décès de Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui meurt alors que notre prophète est âgé de 8 ans. Et à 8 ans, il est pris en charge par son oncle Abu Talib, avec qui il va rester longtemps. Et le dernier point aussi qu'on avait cité, c'était le miracle que le prophète alayhi salat wa sallam a fait quand il était enfant. Vous vous rappelez, quand il n'y avait plus de pluie et que Abu Talib l'a amené près de la Kaaba, l'a mis contre la Kaaba, il a juste levé sa main et Allah Rabbul Izzah a envoyé des nuages et il s'est mis à pleuvoir en quantité. C'était là un signe pour tous les Quraysh, qu'ils comprennent que cet enfant-là, c'est vraiment, il a vraiment quelque chose de spécial. Et avant les Quraysh, Halima Saadiya et sa famille avaient déjà compris que cet enfant était subhanallah, un enfant béni. Il a porté une bénédiction, une baraka qu'il n'avait jamais connue. Alors, ce qu'on va voir ce soir, inshallah, on va essayer de faire un point ou deux points. On va rester de nos 20 minutes. Le prophète, alayhi salat wa salam, a 12 ans. On essaie de suivre la chronologie. 8 ans, il est avec son oncle Abu Talib. Donc, il vit avec son oncle Abu Talib. Et on verra, entre autres, qu'est-ce qu'il faisait comme occupation. Mais là, on a besoin de voir un événement. Il a 12 ans. Et Abu Talib est un commerçant. Abu Talib est un commerçant. Et à cette époque, le commerce se fait vers quel pays? Vous savez que l'Arabie, la terre d'Arabie, c'est une terre aride. Il n'y a rien qui pousse, à part les dattes. Et il n'y a donc pas grand-chose. Et ils dépendaient entièrement du commerce extérieur. D'accord? Et donc, cher Hadi, le commerce se faisait vers la Syrie. Et les Quraysh avaient eu une protection de la part d'Allah Rabbul Izzah qui leur garantissait la sécurité de le trajet vers la Syrie. Et ils faisaient donc deux voyages par an. Un en été et un en hiver. Qui me cite le verset en rapport avec ça? Zakaria. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Tout simplement. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Hein, les voyages en été et en hiver, on est dans la sourate Quraysh où Allah Azza wa Jal rappelle Quraysh justement quel bienfait il leur a accordé, cette sécurité et la protection contre la wa amanahum min khawf alladhi at'amahum min jou', la protection contre la famine et contre la peur. C'est pour ça que les savants disent que la sécurité, c'est un grand bienfait. La sécurité, c'est un grand bienfait. Et le simple fait de quitter sa maison, de venir à pied à la masjid, et qu'on est, bi'idhnillah, on sait que, alhamdulillah, on est en sécurité, il n'y a pas de problème, c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla. Je ferme cette parenthèse. Donc, deux voyages, l'été, hiver. Et donc là, Abu Talib souhaite amener son neveu, alayhi salat wa salam, l'accompagner pour un voyage. Et là, ce voyage, donc c'est en Syrie, mais ils ont transité par un endroit qui s'appelait Boussra. Et Boussra, c'était en Palestine. C'était en Palestine. On connaît donc de quoi on va parler, Abdurrahman? Ah, tu as dit le Mi'raj? Le Mi'raj? Badri? Il a 12 ans. Alayhi salat wa salam. Non. De quoi on va parler? Bien sûr. Bien sûr. Là, on revoit nos classiques, là. De la madrasa, c'est monsieur Imran Sada. On avait appris ça ensemble, ou non? Allahu Akbar. La rencontre avec le moine Bahira, na'am. Le prophète alayhi salat wa salam accompagne son oncle Abu Talib en voyage vers la Syrie pour le commerce et arrive à Boussra. Ils vont rencontrer un moine qui était connu sous le nom de Bahira. Et j'ai appris quelque chose et je pense qu'on l'apprend en même temps. Dans Rahiq al-Maktoum, Mubarak Fawri dit que le nom original de Bahira, son vrai nom, c'était Georges. Oui, d'accord. Donc il n'était pas, on a compris, il était pas musulman, il n'y avait pas d'islam à l'époque. Et c'était un homme sage, c'était un moine, c'était quelqu'un qui avait la connaissance des livres précédents, Torah, Zabur, Injil, et ainsi de suite. Et Bahira avait cette réputation qu'il n'allait jamais à la rencontre des voyageurs. Un ermite, c'est quelqu'un qui reste, qui vit seul. Lorsqu'il a vu l'enfant, je ne veux pas dire encore il a vu le prophète, parce que quand on dit il a vu le prophète, ben c'est normal, il a vu le prophète. Non, il a vu l'enfant. Notre objectif est de montrer qu'il y a des signes de prophétie qui est en train d'apparaître au fur et à mesure qu'il grandit. On a vu la bénédiction avec Halima Saadia, on a vu le miracle, entre guillemets, avec la Kaaba, et là, on va voir autre chose. Donc, il va rencontrer cette délégation et il va leur offrir l'hospitalité. Moubarak Faouri dit, dans l'aviation française, ce que jamais il n'avait fait auparavant. Il n'avait jamais accueilli des invités. Quand il a vu cet enfant, il est parti à leur rencontre. Et il est parti donc vers Mohammed alayhi salat wa salam. Il a pris par la main tout de suite. Et il a dit, c'est lui le maître des habitants de ce monde, celui que Dieu enverra comme miséricorde pour l'univers. Il a dit ça à qui ? Abu Talib. Abu Talib découvre qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que cette personne est en train de nous dire ? C'est mon neveu. Il est orphelin, c'est mon neveu. Et Abu Talib demanda alors, comment le sais-tu ? Et là, il répondit, on fait la lecture. Lorsque vous êtes apparu venant de la direction d'Al-Aqaba, il n'est resté... Al-Aqaba, c'est où, hein ? Al-Aqaba ? Non ? Quand on parle de Bay'atul Aqaba, ça on verra ça. C'est la direction des stèles. C'est là que le prophète alayhi salat wa salam avait fait le Bay'a avec qui ? Ou plutôt, c'est là que les gens, du coup, si je commence par, je vous en réponds, les gens de Madina, de Yathrib, avaient fait le Bay'a avec le prophète alayhi salat wa salam lors du Hajj. Première rencontre, là où il y a la lapidation des stèles. Je referme la parenthèse. Donc, en venant de cet endroit, il dit, il n'est resté aucune pierre, aucun arbre qui ne se prosterne, dans le sens où il avait cette capacité de voir certaines choses. C'était un homme sage, avec un degré de pratique et une grande connaissance, et il a vu ces signes à travers les arbres et les pierres. Cela ne peut se produire que lors de la présence d'un prophète. Il a tout de suite compris. Et également autre chose. Donc là, c'était ce qu'il a perçu comme signe extérieur par rapport à sa connaissance qu'il avait lui. Ensuite, là, on a un autre degré de signe, quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi il s'agit ? Le sceau de la prophétie. Alamatan nubuwa, qui était entre les omoplates de notre prophète alayhi salat wa sallam. Je l'ai reconnu également par le sceau de la prophétie qui se trouve là, il est traduit par « sous son épaule ». Oui, ça revient au même. Et qui est semblable à une pomme. C'est-à-dire, c'était un sceau, c'était une masse, d'accord ? Sa description se trouve dans nos livres. Et là, ça nous ramène vers le verset « Alladhina yattabi'una ar-rasoola an-nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu ». Ça vient de quel verbe « yajidunahu » ya Zakaria ? Remonte. « Yajidunahu ». Ça vient de Wajada, trouver. Yajidunahu maktouban, maktoub qui veut dire écrit, fit taurati wal injil. Donc, ceux qui avaient la connaissance, ils savaient. Et c'était écrit dans le livre de le Taurat et le injil concernant la description du dernier des prophètes et qu'il avait un signe, le sceau de la prophétie, entre ses omoplates. Alayhi salat wa salam. Et là, il a demandé à Abu Talib quelque chose. Protège cet enfant, protège-le. Ne l'amène pas en Syrie, parce que là-bas, il y aura des personnes qui ont la même connaissance que moi. Mais eux sont mal intentionnés. Bahira, c'était quelqu'un qui avait le cœur pur. Il vouait sa vie à l'adoration d'Allah à sa façon. Il a reconnu le prophète, il était content qu'Allah envoie le dernier messager qui est encore enfant et qui un jour deviendra prophète. Mais il sait également, parce que ça faisait partie de ses connaissances, qu'il y aura des gens qui feront tout pour essayer de le tuer, de l'assassiner. Parce qu'il ne voulait pas, ces personnes-là, vous comprenez qu'on ne va pas mentionner les noms, il ne voulait pas que le dernier des prophètes soit parmi les enfants de Ibrahim alayhi salam. Il ne voulait pas que le dernier des prophètes soit parmi les Arabes. D'accord? Donc il a dit, n'emmène surtout pas cet enfant en Syrie et Abu Talib. Pourtant, on a suffisamment expliqué comment c'était des gens qui avaient un certain charisme. Et qui dit charisme, dit force psychologique et mentale. Si vous êtes fort psychologiquement, mentalement, quelqu'un va vous dire des choses, ouais, attention, hein, quand tu passes là, il y aura peut-être quelqu'un qui a jeté un sort, ça va te... Si quelqu'un est faible, dit, Allah, que ça arrive à moi, ben, il détale, il passe pas notre chemin, mais laisse-moi l'autorité, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais quelqu'un qui est fort, puis bon, c'est pas le thème du jour, mais la force mentale et psychologique, elle est liée à la force spirituelle. Intimement liée. De quelle façon? Quand tu as suffisamment de iman, et tu as suffisamment développé Wayaka Nasta'in. Comment est-ce qu'on développe suffisamment Wayaka Nasta'in? En développant suffisamment. Ah, long, on le cite tout le temps, ça. Yaka Na'budu. Les versets s'enchaînent. Yaka Na'budu, c'est uniquement toi que nous adorons. Wayaka Nasta'in, c'est uniquement pour de toi que nous cherchons de l'aide. Ce que les savants, Fassilin, disent. La personne qui a atteint un haut degré de ibada, qui a un lien sincère, profond, intérieur avec Allah, qui adore Allah avec le cœur, avec la langue, avec le gestuel. Pas uniquement avec le gestuel et la langue, non, avec le cœur avant. C'est-à-dire que vraiment, quand il fait son sijda, quand il fait son rukur et tout, il sent qu'il est devant Allah, il a un fort attachement à l'adoration d'Allah, il a l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la honte de désobéir à Allah. Donc c'est quelqu'un qui a atteint le haut degré de iman. Quand tu atteins ce degré de foi et d'assiduité de ta pratique, Allah Rabbul Izza renforce ta foi et il t'est aisé de placer ta confiance en Allah. C'est-à-dire que là, tu te renforces spirituellement, mais également mentalement. Parce que celui qui a entièrement confiance en Allah et en lui uniquement, est-ce qu'il aura peur des gens? Donnez-moi un exemple. Là, on sort de la sirat, non? Mais on reste dans Qasasun Nabiyyin. Donnez-moi un exemple de prophète qui était exposé à des gens extrêmement dangereux. En fait, lui, il faudrait qu'il arrête de donner les bonnes réponses. D'accord? Jazakallah. Allah ybarik fik. D'accord? Moussa alayhi salam, il va voir qui? Fir'aoun. Et quelle était la spécialité ou le grand art à cette époque?
La magie.
Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Appel d'offres. Pharaon, il fait des choses correctement. Il a fait bien sa famille. Non, non. Appel d'offres. D'accord? Apparu au journal officiel. J'exagère, vous avez compris. Et il fait appeler les meilleurs sorciers d'Égypte, qui à l'époque étaient les meilleurs sorciers. Et il y a tous ceux qui ont 5 étoiles, 4 étoiles, 3 Ligue des Champions, 4, 5, les meilleurs qui viennent. Et Moussa alayhi salam, il sait qui est en face de lui. Il sait déjà qui est sur ce trône. C'était Pharaon, le plus grand tyran. Celui qui avait réduit en esclavage les Banu Israël et qui était prêt à égorger femmes et enfants sans le moindre problème, sans un soupçon d'humanisme ou d'humanité de son cœur. C'est vraiment le tyran à cette époque. Et c'est le seul qui a osé dire également « Ana rabbukumul a'la ». Le seul de l'histoire qui a proclamé ce qu'on appelle le Rububiyya, qui a osé dire que c'est lui Dieu. Donc, j'avance. Donc, Moussa al-Sam sait quel est le degré de folie. C'est de la folie. Quel était le degré de folie de Pharaon. Il sait également quelle est sa puissance. Sa puissance de frappe à l'époque, c'était inégalable. S'il prend une décision, c'est fini. Il sait également que, au-delà de sa force, et Pharaon voulait en finir avec Moussa, ben, c'était une simplicité pour lui. Allah décide de mettre dans le cœur de Pharaon autre chose. Il va se compliquer la tâche en fait. Il aurait pu l'expulser du pays ou l'emprisonner et faire disparaître sa da'wah. Non. Il a voulu défier Moussa alayhi salam par la magie. Et donc là, je reviens, Moussa alayhi salam sait qu'en face de lui, il a les meilleurs sorciers d'Égypte. Ibn Kathir, il explique bien ça de le tafsir. Si vous pouvez le lire, Sa'di moins, Ibn Kathir, il est, mashallah, dans les histoires et tout, et mashallah, il s'étale bien. Il y a une nouvelle version de Tafsir Ibn Kathir qui est sortie, je l'ai. Il y a une personne, je sors encore du sujet, il y a, mashallah, une personne qui fait beaucoup de bonnes actions en ce moment, qui a fait venir, on dirait, un conteneur de Tafsir Ibn Kathir. Il donne à beaucoup de gens, à beaucoup de savants, beaucoup de ulama, enfin, savants, beaucoup de nos collègues ont eu, d'accord, et il est bien. Allez, donc, si vous voulez vraiment l'histoire, il y a Qasr al-Nabi d'Ibn Kathir, entre autres, il a écrit un l'histoire des prophètes, et il y a le Tafsir Ibn Kathir. Donc, Pharaon, Moussa alayhi salam, il sait qu'il a le plus grand tyran et les plus grands sorciers. Et lui, il n'a jamais pratiqué tout ça, lui. Les miracles, la magie, il ne sait pas faire ça. D'accord? Et donc, Allah Rabbul Izzah lui donne le bâton, lui donne le signe, et ainsi de suite. C'est les histoires qu'on connaît, subhanallah. Et Moussa alayhi salam, les savants disent qu'il n'a jamais été perturbé où il n'a jamais été intimidé par Pharaon ni par les sorciers. Nous, il nous suffit qu'une personne nous dise que, de toute façon, tel monde là, arrange à rien. Et ça a fait une affaire. Ou alors, on peut parler d'autres choses aussi. Il va t'arriver quelque chose, tu vas voir. Il suffit parfois quand une personne a maudit quelqu'un d'autre, il dit, ah, il m'a maudit, je suis maudit, il va m'arriver un accident. Bref, ça, c'est quand on est faible psychologiquement. Si on est faible psychologiquement, c'est qu'on est faible spirituellement. Vous voyez le lien entre les deux? Donc, Moussa alayhi salam, il avait peur, lui, de le Coran, il est stipulé qu'il avait peur. Il n'avait pas peur de Pharaon, il avait peur des conséquences. Que si Pharaon a le dessus, il va exterminer tous les Banu Israël. Et il en sera peut-être fini de sa mission. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Donc, je sais pas où on est parti très loin, hein, mais on parlait de force mentale, psychologique. Oui, Abu Talib, c'était quelqu'un de fort mentalement. C'est pas comme Abdul Muttalib, comme les Arabes de façon générale, demandez aux Argentins. Et Abu Talib, il savait et il ne se laissait pas impressionner. Encore moins par quelqu'un qui dit quelque chose, qui sort de je ne sais où, quelqu'un qui voit pour la première fois de sa vie, qui s'adresse à lui pour la première fois et qui lui dit un truc incroyable. Abu Talib, c'est pas quelqu'un d'influençable, mais il l'a pris au sérieux. Allah a mis dans son cœur qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter et Abu Talib prend la décision de faire renvoyer le prophète alayhi salat wa salam à où ça? À Mecca, en compagnie de je crois Maïsara était avec lui, hein. Enfin, Abu Talib, en tout cas, ramène le prophète alayhi salat wa salam à Mecca parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de probable. Il y avait peut-être une part de vérité. Et ce qui veut dire que, à partir du moment où il écoute Bahira, c'est qu'il croit également que son neveu va être un prophète. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est là qu'on va voir toute la complexité du destin. Un homme comme Abu Talib, on ne parlera pas beaucoup de lui, je pense. Un homme comme lui qui a toujours été le protecteur du prophète alayhi salat wa salam quand il était petit. Mais ça, c'est, on va dire, presque normal. C'est un oncle, et chez les Arabes, l'oncle, c'est comme le papa. C'est l'oncle qui prend sous son aile son neveu qui est orphelin. Mais il va être également le protecteur du prophète alayhi salat wa salam lorsqu'il devient prophète à l'âge de 40 ans. Il va toujours être de son côté, pour prendre sa défense. Au même titre que un autre tonton, un autre oncle, Hamza, radiyallahu anhu. Et Abu Talib, à la différence de Hamza, et là, on se dit que tout est dans les mains d'Allah. Allah connaît qu'est-ce qu'il fait. Il y a des choses qui nous échappent. On se dit que Abu Talib l'a protégé, l'a aidé, et de son vivant, personne n'a pu poser le petit doigt sur un Nabi alayhi salat wa salam. Quelqu'un qui était proche de lui physiquement, qui était, c'était son sang et qui l'a protégé. Il était le sabab pour protection du prophète d'Allah, pour que la da'wah commence à Makkah et que personne ne lui fasse du mal. Il meurt sans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On peut se dire que mais c'est terrible, c'est astaghfirullah, et tout ce qu'on va dire, ça peut être kalimatul kufr. Hein, il faut faire attention. Mais intérieurement, c'est ce que nous ressentons. Comment est-ce que, et ainsi de suite, hikmatullah. Quand Allah prend une décision, sami'na wa ata'na. Nous acceptons la décision d'Allah et Allah sait le bien qu'il y a dans cette décision. Ça, c'est dans ilmullah. C'est le destin. Et on s'en remet à Allah. Ce qui veut dire que pour nous, quand il nous arrive des petites difficultés, quand il nous arrive des situations, des imprévus, des problèmes, et que les choses ne se passent pas comme on le souhaitait. Des fois, on a un projet, on le prépare depuis des mois, des années, et ainsi de suite, et puis tout d'un coup, ça marche pas, ça n'aboutit pas. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être familial ou autre chose. On s'est dit, mais comment tout ça, l'effort mal fait, tout ça, doit mal fait, tout ça, les efforts, l'investissement, ainsi de suite. Allah a décidé, accepte ce qu'Allah a pris comme décision. Et il ne dit pas, si seulement, là où, fa'altu, si j'avais fait ça, ça aurait été comme ça. Pour ça, me dit, et là, on voit bien à travers cette conclusion de hadith que le croyant accepte la décision d'Allah. Il ne le remet pas encore. Il dit, me dit, ne dites pas si. Si j'avais fait, si j'avais été là, si je n'avais pas dit ça. Fa inna law taftahu, qui complète le hadith, amal al-shaytan. Law, ça veut dire si seulement, ça ouvre le travail de shaytan. C'est-à-dire, quand tu remets en cause le concours de circonstances, je réduis, comme on a dit tout à l'heure, là, shaytan vient. Tant que tu dis que tawakkalna ala Allah, c'est ce que qaddar Allah, wa ma sha'a fa'al, Allah a décrété ce qu'il a fait. Là-dedans même, il y a un khair, d'accord? Tant que tu dis ça, shaytan n'a aucune emprise sur toi. Du moment que tu remets en cause le déroulement des faits, qui en fait ce qu'Allah a prédestiné, shaytan vient. Là, il s'installe. Là, il va travailler avec toi. Il te travaille mentalement. Il va te faire penser que, il va te faire culpabiliser. Il va te faire chercher des ennemis maintenant. Pas des ennemis, des coupables. Et les coupables deviendront du coup tes ennemis. À cause de l'Isa, et il va semer la discorde, la désunion, et ainsi de suite. Donc, subhanallah, l'histoire d'Abu Talib, elle est surprenante. Ça peut un peu nous attrister, mais c'est ce qu'Allah a décidé. Donc, Abu Talib, il se fait du souci pour son neveu, et d'une certaine façon, il croit. Il croit. Bahira. Mais malgré ça, malgré que intérieurement il savait que son neveu était prophète, Allah a décidé que il quitte ce dunya sans la ilaha illallah. Et les savants disent que je suis sorti longuement du sujet, mais ça s'appelle les durus al-mustafad min as-sira, les leçons de foi qu'on peut trouver dans les événements de la vie du prophète sallam, c'est-à-dire la construction de la personnalité de la personne du prophète sallam, ce sont des leçons de vie extraordinaires. Les savants disent que du coup, le fait que toi tu as iman, shukurullah, qu'est-ce que tu as fait pour le prophète sallam? Toi, rien. Un homme qui a donné sa vie pour lui, Allah ne l'a pas choisi pour avoir la ilaha illallah. Toi, tu es né dans une famille musulman, ou alors durant ta vie tu es devenu musulman, t'as pas fait de miracle, t'as pas fait grand chose, et si tu meurs tu vas dans le Jannah. Ushkurullah, remercie Allah que tes actions ont de la valeur, subhanallah. Non. On reste de le timing 23, on va conclure inshallah. Bon, il y a juste un point, donc là on a vu ce premier voyage, et le prophète était frustré parce qu'il voulait faire ce voyage. Il a 12 ans, il grandit, il voulait accompagner son oncle, mais voilà. Et le prophète, alayhi salat wa salam, durant sa jeunesse, travaillait. Là aussi, les savants disent que le musulman, c'est une personne qui doit toujours être actif, être passif, attendre l'aide des gens, ou ne rien faire, ainsi de suite. C'est totalement contraire au caractère du musulman. Le prophète, alayhi salat wa salam, c'est pas un métier, mais qu'est-ce qu'il faisait pour gagner un peu d'argent, pour gagner sa vie? Quel était ce travail? Ce que beaucoup de prophètes avaient fait? Les bergers. Bergers. Pourquoi est-ce que, les savants disent berger parce que le berger va développer des qualités. La patience, la persévérance, l'affection, d'accord? Ce petit mouton qui court, qui sort du troupeau, il va aller le récupérer, même s'il est tombé dans un fossé. Et quand il le récupère, est-ce que quoi? Il lui donne la fessée? Il va tirer ses oreilles? Il va l'insulter? Non, il le prend de ses bras, il le chérit. Alors qu'il a fait quoi? Il y a un marathon, 2-3 kilomètres, d'accord? Quand un mouton, il étale l'Abdurrahman. Hein? Vous connaissez? Il a déjà arrivé au lâche-à-côte? Non, ça c'est même professionnel, ça. D'accord? Voilà. Donc, le berger a toutes ses qualités. Hada. Moyennant un petit salaire, il gagnait sa vie. Et à l'âge de 25 ans, notre prophète alayhi salat wa salam va se rendre en Syrie. Pour, au compte de qui? Et c'est là que nous allons passer la prochaine fois dans une autre histoire, une autre étape, la rencontre avec Khadija, radiallahu anha, qui a entendu parler de l'intégrité, de l'honnêteté, alamat, alamat, autre signe maintenant, ça, la pureté de son cœur, son honnêteté, tout ça, les Quraysh commencent à entendre, ils savent que cet enfant, que ce jeune homme a des qualités exceptionnelles. Alors que beaucoup de Quraysh étaient corrompus, ils avaient des habitudes profondément viles, d'accord, Jahiliya, et donc Khadija entend parler de lui, et il va demander à Muhammad alayhi salat wa salam de faire le travail, d'aller, d'apporter, de vendre les marchandises, et ainsi de suite. Donc ça on verra la prochaine fois. Et donc là, on passe à toute autre chose. On va voir la prochaine fois le mariage avec Khadija radhiyallahu anha. Et ça aussi, il y a beaucoup de choses dramatiques. Ça aussi, c'est des récits qui sont poignants. Ça, on lit, c'est terrible. Parce que je veux dire que Khadija radhiyallahu anha, c'est la seule femme qui lui a donné des enfants. Et il a eu avec Khadija radhiyallahu anha, il a eu... comment s'appelait son premier garçon? Qasim. D'où son laqab. Le prophète Sam était appelé Aboul Qasim. Et vous savez que tous les garçons du prophète Sam, il y a eu Qasim. Et il y a eu, je recherche le nom, Abdullah. Abdullah. D'accord? Qu'est-ce qui est arrivé à ces garçons? Ils sont tous morts. Ils sont morts. Et là aussi, c'est déchirant. Allah décrète qu'il a des garçons. Mais pourquoi est-ce que ces garçons ne pouvaient pas vivre, Imran? Allahu Akbar. Mashallah, il a retenu ça. Alhamdulillah. Dernier des prophètes. Et la prophétie se transmet de père en fils. Et il fallait pas que la prophétie ne pouvait pas se transmettre. Et donc, le prophète, il a ses enfants, ses garçons, et Allah Rabbul Izza reprend deux de ses garçons. C'est quelque chose, hein. J'ose pas mettre d'adjectif à côté. Je peux pas dire c'est terrible, je peux pas dire j'ai pas le droit. C'est la décision d'Allah. D'accord? Mais là, on voit le tarbiya. Comment Allah a éduqué un Nabi alayhi salat wa salam. Toujours, il ne s'est jamais plaint du décès de ses enfants. Jamais. Juste une fois, quand on a annoncé un décès, il s'est mis à pleurer. Sahaba dit au prophète d'Allah, tu pleures, il dit, ça c'est la rahma qu'Allah met dans le cœur des gens. Et Mubarak Fawli dit également que toutes ses filles vont mourir de son vivant. Toutes ses filles. Il avait eu, je lis les noms, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima. Elles sont toutes mortes. Allah a repris leur âme du vivant du prophète alayhi salat wa salam, à l'exception de Fatima radiallahu anha, qui elle va mourir 6 mois. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deux de ses filles étaient mariées avec qui? Uthman, successivement. Hein? Et si je ne me trompe pas, on lira ça bientôt, une de ses filles, la première, est décédée lors de la bataille de Badr. À son retour, le prophète a vu que sa fille était très malade, d'accord? Et Uthman était resté à Madina pour ça. Et il l'a mariée avec une deuxième de ses filles qui, elle aussi, plus tard, va mourir. Situation terrible, terrible tout ça. Hein? Il est orphelin, il perd sa maman, il perd son grand-père, il va perdre son oncle, il va perdre ses fils, il va perdre ses filles. Allahu Akbar. Le prophète a été éduqué, Allah l'a formé pour placer sa confiance en lui et accepter ses décisions qui sont difficiles. Et à la lumière de ces récits, les savants disent que quand Allah t'éprouve par le décès d'un proche, sache que ton modèle, le prophète alayhi salat wa salam, est ton modèle dans la patience face au décès des proches, parce qu'il a perdu tout le monde, tous ceux qui l'entouraient sont morts, et il s'en est remis à Allah, il ne s'en est jamais plaint. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam alaykum, alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.